Deux lettres de l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique nous sont parvenues. Ah, le masque, c'est vrai. Excusez-moi, vous m'entendrez mieux comme ça. Donc, il y a deux lettres qui nous sont parvenues, il y en a peut-être eu d'autres, on ne sait pas. Lui et son équipe ont évangélisé cette ville du nord de la Macédoine lors du deuxième voyage missionnaire de Paul en l'an 49, probablement. Donc, ouais, vous avez ici donc une carte de la région. Oui, vous voyez ici donc la Grèce, hein, avec le sud, avec l'Achaïe, là. Et puis là, en haut, le nord de la Grèce, c'est la Macédoine. Jusque-là, hein, jusque par là. Et puis là, de ce côté-là, la Turquie actuelle, mais qui à l'époque, ce n'était pas du tout la Turquie, et qui était même une région où il y avait beaucoup d'églises. Il y a eu beaucoup d'églises. Donc Thessalonique était la métropole de la province romaine de Macédoine. Alors je ne sais pas si on la voit, Thessalonique. Oui, elle est là. Hein, ouais, Thessalonique. C'est une ville qui existe toujours. Hein. Son nom a un peu changé. À un moment, on l'appelait seulement Salonique. Et puis maintenant, elle est revenue à son nom initial de Thessalonique. C'était une ville portuaire, c'est d'ailleurs toujours une ville portuaire, située au fond du golfe Thermaïque. Alors, le golfe Thermaïque, c'est... Vous voyez là, c'est ce... Voilà, hein, ce golfe ici. Une sorte de bras de la mer Égée. Elle comptait à l'époque de Paul environ 250 000 habitants. Pour l'époque, c'était quand même déjà une grande ville. Surtout, elle était située sur la fameuse voie ignatienne. Cette voie ignatienne, je pense qu'elle apparaît ici en rouge, vous voyez, qui part de là, là. Ici, donc, on est sur la mer Adriatique, hein, je crois. Et puis, vous avez la voie ignatienne qui traversait tout le nord, là, et qui arrive jusqu'à Byzance, jusqu'à Istanbul actuel. Donc, cette voie ignatienne, grande voie de l'Empire romain, qui allait de la Dalmatie à l'ouest, à l'époque ça s'appelait la Dalmatie là-bas, qui est devenue actuellement l'Albanie, jusqu'à Byzance, l'actuel Istanbul. Donc une voie de communication très importante entre l'Europe et l'Asie, l'Orient. Et Luc nous raconte l'évangélisation de Thessalonique dans les Actes des Apôtres au chapitre 17. Donc je vous propose qu'on le lise tout simplement. On prend le livre des Actes, chapitre 17. Les versets 1 à 9. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, c'est-à-dire les Juifs de cette synagogue, à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Et ça, c'était pour les Juifs une chose tout à fait surprenante. Hein. Le Messie était... Oui ? Comment ? Ah pardon, c'est acte 17. C'est acte 17, c'est les neuf premiers versets. Oui, les Juifs attendaient un Messie plutôt triomphant, hein, un chef qui allait les libérer notamment du joug des Romains, etc. Mais ils ne pensaient pas du tout à un Messie souffrant. Donc il discuta avec eux à partir des Écritures en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Le Messie ou le Christ, vous savez, c'est le même mot. Hein, celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes, ils ont dans ma traduction importante, dans d'autres de qualité. Voilà. Donc des femmes de la haute société probablement. Cependant, les Juifs restés incrédules, prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur, en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Voilà. Et aussitôt, donc, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée à cause de ces troubles qu'il y a eu dans la ville de Thessalonique. Donc, il y avait à Thessalonique une communauté juive, probablement importante, puisque, contrairement à la ville de Philippe, il y avait là une synagogue. Vous vous rappelez qu'à Philippe, il n'y avait pas de synagogue et que Paul avait rencontré les premières personnes qu'il a évangélisées en fait au bord d'une rivière, un lieu de prière, mais qui était au bord d'une rivière. À la lecture de ce texte, on pourrait penser que le séjour de Paul et de ses collaborateurs à Thessalonique n'a duré que 3 à 4 semaines, puisque Luc rapporte que pendant 3 sabbats, donc 3 samedis, hein, Paul a prêché dans la synagogue de Thessalonique et qu'ensuite les troubles causés par les Juifs de cette ville l'ont contraint à fuir. En fait, plusieurs indices qu'on verra chemin faisant hein, dans la première aux Thessaloniciens montrent que son séjour a dû durer nettement plus longtemps, au moins 2 mois en tout cas. Mais pas très long quand même. De ce texte d'Actes 17, on peut conclure que la prédication de l'Évangile a eu un succès numériquement modéré parmi les Juifs, mais beaucoup plus important parmi les craignants Dieu, hein, et surtout parmi les païens. Vous savez que les craignants Dieu, c'était des non-juifs, mais qui adhéraient à la foi juive et qui fréquentaient la synagogue, sans être pour autant circoncis. Ils n'étaient pas vraiment dans le judaïsme. Luc mentionne entre autres l'impact de la prédication de Paul parmi des femmes de la haute société de la ville. Mais donc, les Juifs, en majorité hostiles, ont provoqué des attroupements dans la ville contre Paul et ses collaborateurs, jusqu'à porter plainte auprès des autorités, qui s'appelaient à l'époque les politarques. Ça veut dire les gouverneurs de la ville. Leur motif d'accusation, Paul et ses compagnons remettent en cause les édits de l'empereur, l'empereur romain, prétendant qu'il faut servir un autre roi que l'empereur, un roi nommé Jésus. Alors qu'à cette époque, Jésus, bien sûr, n'est plus présent sur cette terre, autrement que par ses disciples. Un bel exemple de la déformation des faits par la rumeur publique. Quoi qu'il en soit, Paul a dû quitter précipitamment la ville, laissant une église toute jeune, ce qui sera pour lui une grande cause d'inquiétude. D'autant qu'à cette époque, les nouvelles ne circulaient pas rapidement comme de nos jours. Après avoir fui Thessalonique, Paul et son équipe évangélisent la ville de Bérée, hein, une ville qui est un petit peu au sud de Thessalonique. Thessalonique est là. Ah ben elle n'est pas marquée, Bérée. Elle est par là, hein, un peu au sud-ouest. Donc, ils ont évangélisé Bérée, une ville à environ 80 km au sud-ouest de Thessalonique. Luc relève l'attitude des Juifs de Bérée, beaucoup plus honnête. Ils examinaient soigneusement si l'enseignement de Paul était conforme aux Écritures. Et c'est ce qu'on devrait toujours faire vis-à-vis d'un enseignant. Mais là encore, les troubles suscités par des Juifs venus de Thessalonique pour persécuter Paul et ses compagnons le contraignent de fuir. Les Juifs hostiles de Thessalonique sont allés jusqu'à Bérée pour continuer à pourchasser Paul et Silas. Les frères le font partir pour Athènes, en Achaïe, donc tout au sud, là. Hein. Athènes est par là. Elle n'est pas marquée, mais enfin. C'est ici, hein, c'est dans l'Achaïe. Donc ils le font partir pour Athènes, et là, mort d'inquiétude au sujet de ces chers Thessaloniciens, il se résout à rester seul dans cette ville, mais envoie Timothée à Thessalonique pour encourager l'Église et avoir de leurs nouvelles. Paul essaiera à 2 reprises de retourner voir ses chers Thessaloniciens, il le dit au chapitre 2, verset 18, mais comme il le dit, Satan l'en a empêché. Satan est un ennemi vaincu, mais il peut tout de même tout à fait mettre des bâtons dans les roues. C'est de Corinthe, où Paul s'est fixé un peu plus tard, qu'il écrira les deux épîtres aux Thessaloniciens. Corinthe est également dans l'Achaïe, hein, dans cette région-là. Plutôt ce côté-là, vers le côté occidental. Alors on va lire le premier chapitre de la première épître aux Thessaloniciens. Alors voilà ce que Paul leur écrit. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, vous avez remarqué que Paul utilise constamment dans cette lettre le terme « nous ». Il parle « nous ». Donc, il associe dans cette lettre, dans cette démarche, ses collaborateurs, Sylvain ou Silas, c'est la même personne, et Timothée. Ce Sylvain, Silas, était un membre de l'église de Jérusalem. Et Paul l'avait choisi en remplacement de Jean, surnommé Marc, pour l'accompagner dans son deuxième voyage missionnaire. Timothée, lui, était un Grec, de mère juive, recruté par Paul lors de son passage à Lystre, lors de son premier voyage missionnaire. Lystre, c'était une ville de l'actuelle Turquie. Lystre, c'est par là, hein. Il s'était probablement converti lors de l'évangélisation de cette ville par Paul, lors de son premier voyage missionnaire. L'adresse de la lettre est donc à l'église des Thessaloniciens, sans mentionner spécifiquement les responsables, comme il le fait d'ailleurs dans la plupart de ses épîtres, sauf dans l'épître aux Philippiens. Il ne les ignore pas pour autant. Il les mentionne à la fin de sa lettre, au chapitre 5, verset 12. Donc c'est la diapo suivante. Celle-là. Voilà ce qu'il écrit. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Cela montre le souci qu'il a de tous les membres de cette église et l'amour qu'il leur porte. Alors, il y a le premier sujet de reconnaissance de Paul et de ses compagnons, qu'il expose dans cette lettre, c'est que Paul et ses collaborateurs donc, expriment constamment leur reconnaissance à Dieu pour les fruits qu'ils constatent dans cette Église. Après le rapport que Timothée a fait à Paul. Et il utilise trois expressions pour parler de ces fruits. Donc trois fruits, hein. Vous voyez les trois expressions, leur foi agissante, leur amour actif et leur persévérance soutenue par leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi, l'espérance et l'amour sont trois vertus que Paul mentionne souvent dans ses épîtres. Cela vaut la peine de nous y arrêter. Par exemple, au chapitre 5 de cet épître, verset 8, voilà ce qu'il écrit. « Mais nous qui sommes des enfants du jour, en contraste avec l'humanité dans les ténèbres, faisons preuve de modération, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance et du salut. » Ça vous rappelle quelque chose, ce qu'il avait écrit donc dans son chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, qui décrivait l'équipement du soldat chrétien. La foi, c'est la conviction ferme des choses que l'on ne voit pas, donc des choses spirituelles. En l'occurrence, la certitude que nos péchés ont été effacés par le sacrifice de Christ et que Dieu nous considère dorénavant comme justes. Ça, c'est l'objet de la foi. L'amour fait partie ici de la cuirasse du chrétien parce que c'est le meilleur rempart contre la tentation de l'égoïsme, de l'autosuffisance, de se contenter du privilège d'être pardonné et de ne pas se soucier de dire aux autres qu'ils peuvent l'être aussi. Le casque de l'espérance et du salut protège les pensées de doute ou de découragement de notre tête. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 5, Paul écrit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Nous avons vu cela en étude biblique avec Rémi. Dieu veut que de nombreux frères partagent la gloire de son propre Fils. Mieux encore, dit Paul, nous dirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la fidélité, à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. On voit, d'après ce texte, que les épreuves, loin de provoquer le découragement, fortifient notre espérance dans le salut final qui nous est promis lors du retour de Jésus-Christ. Une sorte de cercle vertueux qui utilise les persécutions pour encourager la persévérance malgré l'opposition, et ainsi nourrir notre espérance finale, qui est le retour de Jésus-Christ et notre participation à sa gloire. Le passage célèbre de 1 Corinthiens 13, verset 13, Paul vient de décrire longuement la beauté de l'amour divin et il conclut par ces mots. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, dit Paul, c'est l'amour. Paul estime que l'amour est la plus grande de ses vertus chrétiennes, probablement parce qu'il a pour objet Dieu lui-même et son Saint-Fils Jésus-Christ, et par ricochet, nos frères et sœurs en humanité, donc un amour pur, totalement désintéressé. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 5 et 6, en contraste avec ceux de Galatie qui s'étaient laissés gagner par le retour à la loi de Moïse, prêchée chez eux par de faux frères, Paul déclare « Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou non, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. » On retrouve donc ce côté actif de la foi, se manifestant par les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous marchions en elles, et parmi ces bonnes œuvres, la propagation de l'Évangile. Dans l'Épître aux Colossiens, premier chapitre, versets 4 et 5, Paul écrit, donc aux chrétiens de l'Église de Colosse, « Nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Alors, en ce qui concerne les Thessaloniciens, on revient à notre texte, Paul exprime sa joie de voir ces mêmes fruits dans leur Église, la foi, l'espérance et l'amour. Mais il y ajoute des qualificatifs. Il parle de l'œuvre de votre foi, c'est-à-dire le travail produit par la foi. Ce n'est donc pas une foi contemplative, mais une foi en action. Cette foi se manifeste probablement dans toutes sortes d'œuvres de bienfaisance et dans le partage de leur foi avec leurs concitoyens, c'est-à-dire l'évangélisation. Ensuite, il parle de votre travail d'amour. En fait, le terme utilisé pour ce travail d'amour dans le texte original, c'est le verbe kopao, qui veut dire peiner, un travail pénible. Là, ce ne sont pas les œuvres qui sont saluées, mais le travail dur que nécessite l'amour. Ça peut paraître surprenant. Hein ? Le mot grec évoque donc un travail qui exige des efforts, éventuellement pénibles. Bon, aimer vraiment ses frères et sœurs ne tombe pas tout seul du ciel. Cela peut nécessiter de vrais efforts. Ça n'a rien de sentimental. Mais il y a aussi l'amour pour les perdus, qui nous fait consentir à des efforts pour leur communiquer l'Évangile. Et l'endurance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. L'expression signifie que c'est Jésus-Christ lui-même qui est leur espérance, des Thessaloniciens, et bien sûr aussi la nôtre. Autrement dit, l'attente patiente mais vive de son retour. On verra qu'à ce sujet, certains Thessaloniciens n'étaient pas très au clair et que Paul devra leur rappeler l'enseignement qu'il leur avait donné concernant le retour de Jésus-Christ. C'est particulièrement le sujet du chapitre 4 de cette première épître. Deuxième sujet de reconnaissance de l'équipe missionnaire de Paul, leur élection. Il leur dit « Nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis ou élus. » C'est le bonheur de constater que ces frères et sœurs qu'ils ont évangélisés sont des bien-aimés, des élus de Dieu dès l'éternité passée. Une preuve de leur élection, c'est aussi le déploiement de la puissance de l'Esprit lorsque Paul et ses compagnons leur ont annoncé la bonne nouvelle. Pas seulement l'énoncé du salut en Jésus-Christ, pas une simple information, si extraordinaire soit-elle, mais la puissance de persuasion du Saint-Esprit tant dans les prédicateurs que dans les auditeurs, provoquant une profonde conviction chez les uns comme chez les autres. Troisième sujet de reconnaissance, ils sont devenus les imitateurs de l'équipe missionnaire et de ce fait de Dieu, en recevant la parole au milieu de grandes détresses. Ces détresses, ce sont les persécutions, dont la jeune Église a été l'objet tant de la part des Juifs, par jalousie, que des païens, par hostilité instinctive envers cette religion étrangère, radicalement différente de leur religion ancestrale. Et cette persécution, ils la traversent avec la joie que produit le Saint-Esprit, autre preuve de leur élection, puisque c'est le Saint-Esprit qui produit la joie, comme on l'a vu dans la première partie de ce culte. L'équipe missionnaire constate qu'à leur tour, ils sont devenus des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, donc le sud de la Grèce, et au-delà même de ces contrées, en tout lieu, écrit Paul. La traduction du Semeur emploie l'expression « un grand retentissement ». Le mot utilisé suggère d'ailleurs un véritable coup de tonnerre. On a entendu parler de la foi des chrétiens de Thessalonique au loin. Et cela réjouit bien sûr le cœur de Paul et de ses compagnons d'œuvre. Et cinquièmement, Paul et ses compagnons constatent également l'élection des Thessaloniciens à l'entrée qu'ils ont eue auprès d'eux et au miracle de leur conversion des idoles mortes au Dieu vivant et vrai. De plus, ce miracle de la vie nouvelle les a amenés à servir le seul vrai Dieu et à attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui les délivre, et nous aussi, de la colère qui vient. Paul écrit aux chrétiens de Rome, Romains 1, verset 18, en effet, « Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère. » Il y a bien une colère. « Contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. » Cela a probablement surpris les païens de Thessalonique d'apprendre que le Dieu de l'univers, leur créateur, est en colère contre une humanité qui lui a tourné le dos et s'est fourvoyée dans l'adoration des idoles. Mais ils ont certainement appris aussi de la bouche de Paul et de ses compagnons que le sang de Christ les met définitivement à l'abri de cette colère. Il en est de même de nos jours, de beaucoup, sinon de la majorité, de nos contemporains qui ignorent que Dieu est en colère contre eux à cause de leurs péchés et que cette colère demeure sur eux s'ils ne se repentent pas. Nous sommes porteurs de ce message terrible, celui de la colère de Dieu, mais aussi de la solution magnifique qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il est le seul qui puisse nous délivrer de la colère qui vient, et ça, c'est un message formidable. Cette expression, la colère qui vient, évoque le jugement dernier, dont peut-être plus de gens que nous ne pensons ont quand même une vague conscience. De nos jours, et dans notre contexte d'une société post-chrétienne, parler de la colère de Dieu n'est certes pas évident. On ne peut cependant pas faire l'impasse de cette vérité dans l'annonce de l'Évangile. Il me semble que communiquer une telle vérité ne peut se faire de nos jours que dans une relation de confiance résultant d'une amitié sincère. Cela fait longtemps que les chrétiens évangéliques que nous sommes réfléchissent aux moyens de communiquer cette vérité. Nous souhaitons développer cette réflexion dans notre Église afin qu'elle remplisse sa mission première de communiquer la bonne nouvelle. Comme on l'a vu dans ce texte, un des éléments incontournables pour communiquer l'Évangile à nos contemporains, c'est l'amour que nous leur portons. Un amour exigeant, se traduisant en pratique par un travail qui mobilise les forces que Dieu nous donne. Un amour qui ne baisse pas les bras, même si cela peut être fatigant, voire parfois décourageant. Le découragement est l'une des plus puissantes armes du diable. Quand on lit les lettres de Paul, il ne nous cache pas les épreuves sévères qu'il a dû traverser, mais on ne le voit jamais découragé, même quand beaucoup de ses collaborateurs l'ont abandonné et qu'il sent que sa condamnation à mort est imminente. En 2 Timothée, chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul écrit, donc à Timothée, « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. » C'est-à-dire que la libation était un liquide en général du vin versé sur un sacrifice. « Je suis prêt d'offrir ma vie donc comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Que le Seigneur bénisse sa parole.